de vulgariser la philosophie, de la rendre concrète et de l'ancrer dans le quotidien, dans l'actualité, dans le monde.
Il y a Hegel, qu'on l'envoie sur la photo, Sartre, quelque part aussi, qui est
dessiné. Quand on parle de Tour d'Ivoire.
Et puis Marx, en bas. L'actualité, c'est le chapitre qui nous occupe à ce stade-ci de l'émission. Josefa Calcerano. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'actu, sur la prof de philo que vous êtes aussi. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce qu'on vit aujourd'hui en 2026 ?
Alors il y a toute cette actualité belge autour de la réforme de l'enseignement et des grèves que nous avons vécues. Donc moi, en tant que prof, évidemment, j'ai été
en première ligne,
dans les manifs, sur les piquets de grève. Et donc à la fois, je regarde très pessimiste parce qu'on est en train de saper, de détricoter certains acquis et de détricoter notre enseignement. Et puis en même temps, je suis très positive parce que ce mouvement enseignant, il a été fabuleux. Il a été très très bien suivi et puis on a été très vite rejoints par les parents et par les jeunes. Donc nos élèves sont venus, nos élèves se sont engagés. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. J'ai jamais aussi bien donné cours de philosophie et citoyenneté que pendant ce mouvement de grève, alors que je n'étais pas en classe.
Ils se sont engagés, ils vous posaient des questions, puisqu'on parlait de cette fameuse importance.
Ils sont venus nous prouver, mais
pourquoi on manifeste, ça veut dire quoi enseigner, c'est quoi l'avenir de l'enseignement aussi.
Oui, et alors surtout, on a dit que l'un des premiers gestes de la philosophie, c'est de se poser des questions, mais c'est aussi de trouver des réponses et à un moment donné de passer à l'action. Il y a un moment pour la réflexion et puis un moment où, pour l'action, où il faut prendre sa pancarte. Et les jeunes, et ça ils l'ont fait sans nous, se sont organisés eux-mêmes, sont venus avec les pancartes, ont créé des slogans et ont eu en plus la politesse de venir nous les montrer devant l'école avant de partir manifester sans nous. Donc c'est fabuleux. Et alors il y a même des élèves qui sont venus devant l'école et qui se sont contentés simplement d'être là, d'être présents. Donc ils se plaignent tous les jours de devoir se lever, moi aussi d'ailleurs, de devoir se lever très tôt pour venir en cours à la première heure. Et là j'ai demandé à certains, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous pourriez être dans votre lit, l'école est fermée. Ouais. Mais non, ils tenaient à être là simplement. Et alors certains s'asseyaient, soit près de nous, soit de l'autre côté de la rue, en face, le trottoir d'en face, restaient par exemple la matinée et puis repartaient. Comme s'ils tenaient simplement à montrer qu'ils sont là,
oui,
et qu'ils nous soutiennent et que ça les concerne aussi.
Oui, bien sûr, au-delà d'une jeunesse qu'on dit parfois passive, eh bien non, dans ce genre de mouvement, vous avez constaté aussi que vos élèves étaient très actifs. Au-delà de la réforme de l'enseignement, Josefa, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans l'avenir de l'école?
Dans l'avenir de l'école, au-delà de la réforme, je n'ai pas trop de soucis pour l'avenir de l'école.
Est-ce que ce ne serait pas la difficulté même du métier de professeur? On voit que c'est un métier en pénurie. Beaucoup de spécialistes nous disent que la réforme qui a été apportée cette fois-ci ne va pas forcément faciliter le fait de s'engager dans cette profession. Là, vous m'avez dit que le cours de philosophie et de citoyenneté que vous donnez, puisque c'est une heure par semaine, je pense que vous avez 20 classes.
J'ai 20 classes, oui. Donc, pour avoir un horaire...
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Donc là, c'est devenu presque industriel, en fait. Donc, dans mon horaire cette année, j'avais 10 classes de 4e année. Donc, je répétais 10 fois le même cours. J'avais une 4A dans une école, une 4A dans l'école numéro 2. Et donc, je confonds les élèves, je confonds les cours. Donc, ça devient presque industriel. Donc, la difficulté, ce qui m'inquiète pour l'avenir de l'école, ce ne sont pas les élèves. C'est donc le système et nos mauvaises conditions de travail qui ne risquent pas de s'améliorer. Apparemment.
Oui.
Par contre, on parle souvent de cette jeune génération qui serait plus difficile à gérer. Ça je ne suis pas du tout d'accord. Donc, des jeunes, ça a toujours été des jeunes. Ceux-ci ne sont pas plus difficiles que nous l'étions, je ne pense pas. Et donc, ça ne me fait pas peur.
Ouais. Et pour rester sur votre passion, qui est l'écriture et la lecture, là, est-ce qu'il y a de quoi, et puis on parlera des espoirs que vous portez, mais sur l'avenir aussi de la manière dont nos jeunes aujourd'hui écrivent, lisent. On sait qu'ils sont énormément challengés par l'environnement numérique. On a reçu beaucoup de professeurs dans l'émission Les Clés d'Arnaud Roysen, des professeurs qui nous disaient, mais effectivement, dans notre pratique quotidienne, on est challengés par les plateformes numériques. C'est difficile aujourd'hui de garder l'attention des élèves. Est-ce que sur la lecture, sur l'écriture, sur l'ouverture aussi aux philosophes, là, par contre, est-ce qu'il y a une petite inquiétude dans votre chef ?
Vous voulez m'obliger à être pessimiste, mais je ne le serai pas. Non, mais chaque époque a ses challenges. Je suppose que la littérature a eu de tout temps ses concurrents. Et je ne connais pas les chiffres, mais grâce au prix Victor, j'ai fait ma petite tournée littéraire. Donc, ouais. J'ai rencontré toutes ces classes qui ont participé au prix littéraire. J'ai rencontré en moyenne au moins une classe par semaine pendant presque un an. Donc, j'en ai vu défiler des classes. Les jeunes lisent. Et alors, peut-être autrement, peut-être sur des tablettes, peut-être moins vite ou plus vite, enfin je ne sais pas, mais en tout cas ils continuent à lire, oui.
Ben voilà, finalement c'est déjà un message d'espoir. Quel était le philosophe, puisque vous m'avez taxé très justement de pessimisme, est-ce qu'il y a un philosophe qui était dans son œuvre particulièrement pessimiste?
Je vais parler plutôt d'un courant littéraire et revenir au Grand Est si vous voulez bien, parce que
les lecteurs... Qui est votre roman?
Oui, les lecteurs ne le savent pas, mais derrière chaque personnage se cache un philosophe. Derrière la personnage principale, Tara, se cache le grand Kant. Parce qu'en fait, face aux dilemmes moraux, les personnages réagissent toujours de la même façon, de façon cohérente. Derrière Tess, qui est l'amie de Tara, se cache le courant utilitariste. Et derrière l'énigmatique, le mystérieux Renzo, se cache le scepticisme moral. Et donc oui, s'il y a un courant un peu plus pessimiste, ce serait celui-là. Dans le roman, Renzo, lui, il pense que la morale n'existe pas, que la liberté n'existe pas non plus. Et donc le sceptique, c'est celui qui va remettre les choses le plus en cause.
Je suis plus donc dans la veine de Renzo. Je me situe peut-être plus dans le personnage.
Peut-être, passez le grand test et vous le saurez.
De Renzo, le grand test, qui est votre roman pour lequel vous avez eu le prix. Comment est-ce qu'on peut aussi convoquer les philosophes quand on parle vraiment de l'espoir, des espoirs qu'on porte pour une société? Ce sera la question que je vais vous poser.
En Belgique, il y a un grand paradoxe parce que tout le monde s'accorde à dire que la philosophie est importante, qu'il faut développer l'esprit critique de nos enfants, développer leur conscience citoyenne, et en même temps, la philosophie est quasiment absente de nos vies et de l'école. Si l'on compare avec le bac philo en France, où ils ont 8 heures de philo en terminale par semaine, ceux qui prennent l'option philosophie, quand on compare avec l'Italie ou l'Allemagne, la Belgique est complètement à la traîne. Et donc un de mes espoirs, et de mes collègues de philosophie et citoyenneté aussi, c'est que cette fameuse deuxième heure de philosophie arrive dans l'enseignement officiel. Pour le moment, on a une heure obligatoire par semaine. On nous en a promis une deuxième depuis l'instauration du cours de philosophie et citoyenneté. On n'en parle plus, mais nous, on l'attend toujours, cette deuxième heure de philosophie.
Oui, c'est important, effectivement, d'avoir cette deuxième heure et cette approche que vous dites, vous, ce qui vous plaît le plus dans ces cours de philo, c'est de rendre très concrète, simpliste aussi, dans le bon sens du terme, l'apprentissage philosophique.
J'ai adoré mes études de philosophie, mais il faut reconnaître ce qui est, les philosophes peuvent être très agaçants. Donc on a l'impression que parfois quand même ils font compliqué juste pour le plaisir de faire compliqué. Et donc moi ce que j'ai adoré dans mon métier de prof de philo, de prof de morale à l'époque, c'est de simplifier tout ça, de vulgariser et de rendre les choses concrètes, parce que la philosophie ce n'est pas obligatoirement quelque chose de difficile, on n'est pas obligé d'employer plein d'autres termes compliqués qu'on ne connaît pas, et ça peut être très rattaché aussi à notre quotidien, à l'actualité, à des choses concrètes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le Grand Est. D'ailleurs, c'est concret. On fait de la philo, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a de la réflexion, mais il y a aussi beaucoup d'action. Ouais. Et alors, c'est lié à notre vie aussi. Dans le Grand Est, il y a beaucoup de dilemmes moraux, de grandes questions sur le bien et le mal. Mais c'est des questions qu'on se pose tous les jours dans notre vie quotidienne.
À vous entendre, Josepha Calcerano, et dans les moments... Alors on peut regarder le verre à moitié vide et à moitié rempli, hein, mais c'est quand même une photographie du monde aujourd'hui qui paraît quand même malgré tout plus sombre que lumineuse. Où sont nos philosophes? On aura envie de vous dites, un des espoirs que vous portez, c'est une deuxième heure de philosophie à enseigner dans l'enseignement fondamental et obligatoire. On a envie de dire où sont aussi les philosophes, sur les plateaux de télévision ou dans l'action politique aussi. On aurait bien besoin aujourd'hui d'avoir des réponses sur là où on va et que nous réserve le futur. Cette parole philosophique, j'ai l'impression qu'elle nous manque.
Elle nous manque parce qu'elle manque déjà à la base, à l'école. Donc des philosophes belges, il n'y en a quasiment pas. Moi, pendant mes études de philosophie, j'ai étudié des Allemands, des Français, mais pas de Belges. Et pas de femmes non plus, entre parenthèses. Si on veut des philosophes qui prennent la parole sur l'actualité, il faut d'abord les former, ces philosophes-là. Et ça commence à l'école.
Sur la... ce sera la dernière question que je vous poserai dans cette partie espoir, et puis on va déconnecter, on va écouter votre son ou votre chanson, puis la photo déconnexion. On se pose des grandes questions, les ados sans doute aussi, sur l'avenir de cette planète. Hein. On nous dit qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu, il nous arrive des cataclysmes et une nature qui subit aussi l'activité humaine. Comment est-ce que la philosophie pourrait répondre à cela, à cette grande crise climatique? Est-ce que vous l'abordez dans le Grand Est, qui est votre roman, ou bien comme prof de philo, comment est-ce qu'on pourrait aborder cette question-là, sans ouvrir dans le détail ce chapitre, mais je voulais vous entendre comme prof de philo sur ce grand rendez-vous existentiel que 2026 nous propose.
Et le philosophe, il nous conseillerait de d'abord commencer par se poser des questions et déconstruire. C'est ça aussi, hein, le fait de se poser une question, c'est de critiquer, c'est-à-dire de déconstruire notre façon de penser. Et je crois que le philosophe dirait qu'il faut commencer par déconstruire notre paradigme. Descartes a dit que l'homme devait être comme maître et possesseur de la nature. Et je crois que c'est cette pensée peut-être occidentale et qui nous est propre, qui place l'homme au centre et qui le place comme dominant dans la nature. C'est peut-être cette pensée-là qu'il faut commencer par déconstruire, pour après reconstruire. C'est ça qu'elle fait la philo. La philo, elle déconstruit, mais après, elle propose aussi de reconstruire quelque chose.
Oui, c'est intéressant comme message. Vous dites que pas de futur possible sans un grand moment de réflexion et de déconstruction sur notre façon d'habiter le monde.
Oui, tant qu'on ne changera pas ça, évidemment, ça va être compliqué de faire des progrès.
C'est le son pour déconnecter Josefa Calcerano comme prof et écrivaine. Pourquoi ce choix ?
Parce que moi, pour déconnecter, je change de langue. Donc pendant l'année, donc je suis francophone, hein, je pense en français. Pendant l'année, je pense, j'écris, je travaille en français.
Vous lisez en français aussi ?
Je lis en français.
Ouais, ouais.
Et puis pendant l'été, je switch. Et alors là, je commence à lire en italien. Et je pars en Italie, évidemment. Et donc, cette chanson, c'est la langue italienne qui revient. En plus, elle a un côté estival dynamique, comme ça, qui fait penser aux vacances. Et alors, les paroles sont importantes aussi, puisque les deux premières phrases disent je suis partie très loin, je pensais m'éloigner, et en fait, je resterai toujours cet Italien. Donc voilà, la belle référence à mes racines, à mes origines italiennes, constitutives de mon identité.
Oui, la fidélité aussi par rapport à votre héritage familial. C'est intéressant, je trouve, ce que vous dites, Josefa, sur la manière de déconnecter quand on passe dans une autre langue. On parlait, celles et ceux qui nous ont suivis en tout début d'émission, vous parliez de votre famille. Vous nous avez confié que vos grands-parents avaient été confrontés à l'analphabétisme, ne pas savoir lire et écrire. On a beaucoup parlé dans l'émission de l'importance de faire lire nos jeunes, de les faire aussi beaucoup écrire, mais l'importance aussi de l'apprentissage d'une seconde langue. C'est la première fois en fait que j'entends un invité qui me dit ben moi la manière de déconnecter, c'est de switcher, de changer, de lire dans une autre langue, d'écouter éventuellement de la musique dans une autre langue, de parler une autre langue, ça me permet véritablement de déconnecter.
Oui,
la richesse d'une deuxième langue.
Mais ce qui va avec la langue, c'est la façon de penser. Donc, quand j'écoute de l'italien ou quand on parle le dialecte sicilien à la maison, on pense plus de la même façon. Et on ne réagit même plus de la même façon. Donc le sicilien, par exemple, c'est une langue très folklorique où c'est pas une langue qui se parle, c'est une langue qui se crie. On est beaucoup dans le deuxième degré, dans l'ironie. Et donc on se dispute, on fait semblant de se disputer. Donc on a déjà une autre attitude, une autre posture et une autre façon de penser. Donc oui, c'est tout.
Quelle est la place qu'occupe l'Italie, puisqu'on parle de la déconnexion aussi? Et vous êtes passionné de photographie. On verra dans un instant la photo que vous avez choisie pour de la déconnexion. Mais la place de l'Italie dans vos classes, dans le rapport à vos étudiants, vous êtes professeur de philosophie du côté de Liège, dans deux écoles différentes. Vos élèves, sont des 4e, 5e, 6e. Quelle est la dose d'italien ou d'Italie que vous mettez dans vos cours de philosophie ?
Dans les cours de philosophie, pas trop. Mais par contre, dans le rapport à mes élèves, c'est très important dans l'une de mes deux écoles. Donc j'ai la chance d'avoir deux écoles quand même assez différentes, donc c'est très riche. Et dans l'une de mes deux écoles, il y a une forte population italienne. Et alors là, évidemment, dans nos rapports, c'est très important. Et alors, je vois que pour eux, je suis quand même... je suis dès leur, en fait. Je ressemble à la tante de tous mes élèves. Hein. Donc c'est madame, vous ressemblez à ma tante. Donc ça aide pour la prise de contact.
Ouais. Quand vous haussez le ton dans les classes, vous switchez en italien ?
Mais moi, je hausse le ton tout le temps. Donc, mes élèves me reprochent souvent, ça c'est peut-être plus ceux de l'Athénée de Visé qui sont moins habitués que les Italiens de Montaunier, mes élèves me reprochent souvent que je crie. Mais bon, voilà, ça c'est peut-être les racines.
C'est le tempérament. Une dernière question sur la philosophie, Josepha. Un philosophe italien qui ferait partie de votre environnement référentiel, de dire, tiens, dans ma valise, si je dois emporter mes philosophes préférés, s'il y a une petite place pour un Italien ou une Italienne, ce serait qui?
Ce serait peut-être le philosophe sur lequel j'ai fait mon mémoire, donc Luigi Parisone, qui s'est posé la question qui, moi, me tracasse le plus, c'est celle de la morale et de la liberté.
Qu'est-ce qu'il nous donne comme réponse ou comme type de réflexion ce philosophe que vous avez étudié dans votre mémoire?
Oui, il nous donne comme réponse que tout est à chercher dans la liberté, en fait. Et donc je suis libre de poser mes actes, et c'est ça le plus important.
Et au niveau de vos étudiants, j'imagine que cette question de la liberté doit faire aussi partie de leur cursus scolaire, cette grande question, suis-je ? On a commencé par cette première question philosophique qui nous occupait. Je vous ai demandé quelle serait la première question existentielle, et vous m'avez dit, c'est est-ce que j'existe vraiment ? Cette question de la liberté, c'est important de l'aborder avec des 4e, 5e, 6e, à travers cette question, suis-je réellement libre de mes actes, de mes pensées ?
Voilà, et alors quand il me demande, mais pourquoi on étudie les autres philosophes si le but c'est de penser par soi-même, j'essaye de leur expliquer qu'aller chercher chez les autres, ça aide à construire ses propres réponses. Si des grandes personnes intelligentes l'ont fait avant nous, pourquoi repartir d'une page blanche ? Donc il faut s'aider des philosophes et après faire un peu son petit marché et choisir chez les uns et chez les autres les réponses qui nous plaisent pour nous après construire les nôtres.
Ouais. Quand ils sortent de rhéto, les rhétoriciens, les rhétoriciennes, à quel moment vous vous dites, tiens, quelque part, ça a marché mon cours, ou bien j'ai l'impression que quelque chose s'est passé quand ils quittent l'enseignement secondaire et qu'ils vont entrer, hein, que ce soit dans des parcours scolaires encore à la haute école, l'UNIF ou pas, hein, s'ils commencent à travailler ou qu'ils font autre chose. Qu'est-ce qui vous réjouit en fin de parcours de rhétorique par rapport au cours de philosophie que vous donnez ?
C'est même avant qu'ils quittent, hein. Donc c'est quand ils retournent la philosophie contre moi-même, en fait. C'est quand l'élève dépasse le maître. Donc un des autres gestes de la philosophie, c'est d'apprendre à bien penser et notamment de savoir discerner chez les autres, de repérer les erreurs de pensée. Et donc il y a toute une branche de la philosophie qui est la logique, et on en fait en classe, et je leur apprends à repérer les mauvais raisonnements, tout ce qui n'est pas logique. Et j'appelle ça des cartons rouges. Donc quand je sors mon carton rouge, c'est que le raisonnement n'est pas bon. Et alors évidemment, moi, quand je suis fatiguée ou que je ne fais pas attention, j'en fais aussi des cartons rouges. Et alors là, en fin de parcours, ils sont capables de dire « Madame, écoutez, vous faites un carton rouge, là, vous êtes en train de faire une généralisation, une simplification, un homme de paille. » Et alors là, je ne sais pas quoi répondre parce qu'ils ont raison. Et là, je me dis « Oui, j'ai réussi quelque chose. »
Le maximum de cartons rouges pour vous, en fin d'année, c'est en fait une évaluation qui est remarquable pour vos étudiants. Alors, vous m'avez dit la photo que l'on voit pour la déconnexion, elle a été prise par vous, parce que vous adorez, vous êtes passionné de photographie. Alors celui qui doit être patient et flexible, c'est votre compagnon, parce que sur la route des vacances, quand vous voyez quelque chose qui est cadrable, vous dites stop, je prends la photo.
J'écris et il doit freiner et vite se garer sur le côté. Et donc là, nous sommes en Sicile, nous sommes en train de faire le tour de la Sicile, donc mon mari est en train de conduire, moi je suis le passager, et c'est moi qui décide. Hein. Donc il n'y a rien qui a été décidé dans ce voyage-là à l'avance, rien n'est réservé, donc on loue une voiture en Sicile et on improvise, donc c'est la liberté totale. Et là, ce jour-là, je décide qu'on va prendre la route vers le village de mes grands-parents, le village d'origine de mes grands-parents, et donc voilà, cette route, elle traverse la Sicile, des routes de campagne, j'ai vraiment une sensation de liberté parce que ce sont de belles routes sinueuses mais sans feu rouge, donc on ne s'arrête pas et on a vraiment l'impression de se balader, de tourner, monter, descendre, et donc on se dirige vers le village de mes grands-parents.
Et la route est bien sinueuse, ça fait aussi le lien avec ce qu'on vit, hein, l'époque qui parfois n'est pas rectiligne, mais on voit ce beau tournant, et puis la Sicile qui est vraiment, j'imagine, la déconnexion suprême pour vous. Merci de l'avoir invité aujourd'hui, cette Sicile, et puis vos grands-parents. On va terminer là-dessus.